C'est à cause de sa fidélité. C'est à cause de sa fidélité. Puisque la sortie d'Égypte se fait à la pleine lune, le 14 du mois, le 13, il y a eu la catastrophe. C'est une catastrophe pour les Goïms. Alors, il se rappelle, 13, c'est néfaste. Donc, c'est un petit détail. Mais vous verrez donc que chaque fois qu'il y a un récit de ce qu'on appelle en français une théophanie, c'est-à-dire le fait que Dieu se dévoile, théophanie, avant la fin des temps, il y a la crainte, le risque d'une catastrophe. Vous allez reprendre sur ce point-là, marquer la référence, tout le récit du Mahamad d'Arsinaï, du Sinaï, dans le chapitre 19, et toutes les précautions que le peuple doit prendre parce que Dieu va se révéler. Et Dieu dit à Moïse, attention, c'est très dangereux. Et surtout qu'il ne s'approche pas trop. Vous comprenez ce qu'il y a dans ce récit. Pour Moïse, ce n'est pas dangereux, parce qu'il est déjà arrivé au niveau où la révélation pour lui. Mais tous ceux qui ne sont pas arrivés à ce niveau-là, c'est dangereux. Alors il y a des raisons pour lesquelles il fallait qu'ils assistent à cela. Et en particulier pour savoir que Moïse est vraiment à ce niveau-là. Il aura suffi, mais c'était nécessaire qu'une fois il sache. Mais c'était dans la terreur la plus grande, parce qu'ils n'étaient pas capables de le supporter sans nourrir. Qu'une fois il sache que Moïse était vraiment en dialogue avec Dieu, en face à face avec Dieu. Mais Moïse seul était capable. Un petit peu moins à Aaron, etc. Et chacun est âgé à son étage, à son niveau, sur la montagne. Mais chaque fois, c'est dans. Dans le Zohar, il y a une explication que je prendrai peut-être quand on étudiera chez Rachelim. Et on compare ça, toute l'histoire jusqu'à la fin des temps, on compare ça à la concert des fiançailles. Il y a une exigence absolue que ça arrive, le mariage, et en même temps une terreur que ça arrive. C'est la Midrashim, c'est le thème de la fiancée. Vous avez compris, c'est pas la peine que j'analyse, vous avez compris tout. En même temps, un désir que ça arrive, en même temps la terreur que ça arrive. C'est tout le temps de l'histoire. Parce que tant que c'est pas le temps, c'est catastrophique. C'est vrai aussi pour les fiancés. Et est-ce que c'est bien clair? Alors, bien entendu, à l'échelle individuelle, à travers l'histoire, et c'est ça, les prophètes, à l'échelle individuelle des hommes, sont arrivés à ce rendez-vous, à l'échelle individuelle. Mais ces événements de prophétie à l'échelle collective sont exceptionnels, en particulier la génération de la sortie d'Égypte. Il est probable que nous sommes une génération pareille. Mais ça, c'est un autre problème. Mais en particulier la génération de cette époque. C'est-à-dire qu'il y a des raisons historiques pour lesquelles ça se passe avant vraiment la fin. Est-ce que vous comprenez? Et vous verrez à la longue, quand vous serez familier avec les textes, que vous pourrez organiser énormément de sources et de références autour de cet axe. Alors donc, première partie du travail, c'est le Créateur qui aménage le monde pour que le monde soit habitable. Cet état du monde habitable, aménagé, c'est le jardin. Vous savez qu'à Jérusalem, il y a je crois qu'il s'appelle Baït Ragan, une maison et un jardin. C'est la fin du sixième jour. Alors là commence l'histoire de l'homme. Et l'homme doit aménager le monde de telle sorte qu'il soit habitable par Dieu, si j'ose dire. Et c'est ça le temps du rendez-vous. Est-ce que c'est clair? Bon. Et c'est pourquoi j'ai tenu à vous donner à l'avance le critère et le principe. Et tout l'essentiel de l'enseignement des prophètes hébreux, ils ont un secret. C'est que ça ne peut se passer que si la morale réussit. Là où la morale réussit, alors il n'y a plus de danger. Qu'est-ce qui empêche? Cette rencontre, c'est qu'est-ce qui fait Mechitsa, comme dit le Rambam, comme dit Maïmoni, qu'est-ce qui fait Pédosfer, si je veux dire, c'est la faute morale. C'est-à-dire que l'homme approcha d'aménager le monde en bêta-miglage. C'est-à-dire, l'objectif de l'histoire, c'est le Veda-Vidouche. C'est-à-dire, la construction d'un monde où Dieu et l'homme puissent être en paix. Alors, c'est arrivé, donc, une fois, sur un point de l'espace, à Jérusalem, dans un point du temps, en ce temps-là, dans un point de l'humanité, l'identité hébraïque, que ce rendez-vous a eu lieu. Et c'est le centre de l'histoire universelle. Et l'objectif de l'histoire, c'est d'étendre à la création tout entière cette sainteté qui est apparue sur un point de l'histoire. Est-ce que vous avez bien compris?
Ce que fait en point l'histoire, c'est le Beit HaMikdash lui-même, et non pas Eretz Israël en général.
C'est ça, c'est le. Je dirais l'inverse. C'est-à-dire, le Beit HaMikdash, c'est le point culminant de ce qu'est Eretz Israël. Le Beit HaMikdash, c'est Jérusalem. C'est-à-dire, l'objectif, c'est que le monde entier devienne le Beit HaMikdash. Mais, premièrement, l'objectif de l'histoire, c'est pas d'aller au Sinaï recevoir la Torah. Ça, c'est, on voit une péripétie nécessaire. C'est une péripétie. L'objectif de l'histoire, c'est la construction du Beit HaMikdash. Ça, c'est la deuxième thèse. C'est clair ? C'est-à-dire, nous avons. Vous relirez tout dans toute l'histoire du dévoilement au patriarche, de la révélation au patriarche, cette promesse que, après les tribulations de l'histoire, la galoute, la dispersion et tout cela, on a rendez-vous. Et c'est ça la promesse, on a rendez-vous au pays que j'ai promis à tous ces versets. Et donc, l'objectif de la sortie d'Égypte, c'est de construire le Beit HaMikdash à Jérusalem. Donc, on aura à apprendre et pourquoi il a fallu faire un détour par le Sinaï. Vous avez compris ? Est-ce que c'est clair ? Mais ça, c'est ce point. Bon. Est-ce que vous avez des questions à poser sur ce schéma ? Mais vous voyez très bien que la fin du septième jour, c'est celui qui annonce le huitième jour. Et le huitième jour, c'est le jour des temps messianiques. C'est à la fin du septième jour qu'on atteint Elia Ronavi qui annonce le huitième jour.
Une question concernant l'exemple tout à l'heure de la bougie et du soleil. Disons, on parlait donc de la bougie, c'est déjà de lui-même une source.
Et je vous avais dit comment le Midrash nous montre comment Abraham enseignait cela. Okay. En donnant à manger. Tu manges. Ça veut dire que tu n'existes que parce que tu reçois l'air. Et on a appris aussi par la pêcherie. Manger, c'est un acte religieux par excellence. Manger. Alors c'est la raison pour laquelle si des gens en mangent, il faut manger cachère.
Est-ce que on ne peut pas revenir ici? Le texte qu'on a dans le premier verset,
l'Avda ou le Shambra. Puisque j'ai parlé tout à l'heure des événements de révélation qu'il y a entre-temps, et que, objectivement, ils sont anormaux. Il est anormal que, puisque nous avons rendez-vous à la fin des temps, le jour du mariage, que le prétendant fasse irruption. Vous comprenez ce que je veux dire? Et il y a, dans les lois du Shabbat, il y a une loi fondamentale. S'il y a danger de mort, alors on doit suspendre la loi du Shabbat. Ça veut dire que c'est la même chose, c'est la définition du miracle. Le monde fonctionne d'après les lois de la nature, comme pour nous. Ce qui est préparé le sixième jour, ça fonctionne. Ce qui n'est pas préparé le sixième jour, on n'intervient pas. Dans les lois du Shabbat, ok ? Et le monde fonctionne suivant les lois de la nature, et Dieu est juge de la marche de l'histoire. S'il juge que l'histoire de l'homme est en danger, il intervient. Il lève le chapeau. C'est ça le miracle. Vous avez compris le problème ? Ce qu'on appelle le picouar nefesh. Alors il y a mille questions qui se greffent là-dessus. Je viens de vous dire une petite phrase, mais elle ouvre des bibliothèques entières. Bon, mais laissez ça pour les bibliothèques, après. Mais... par exemple, à la sortie d'Égypte, Dieu intervient pour sauver Israël. Mais je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, ça se fait pour le monde entier dans une atmosphère de catastrophe. ne croyez pas que les dix plaies d'Égypte, c'était Stam, hein, les dix plaies d'Égypte, les Makot. C'était pas Stam. C'était terrible. De la même manière que, lorsque le jugement est intervenu, que la civilisation de Caïn devait être annulée, le déluge, c'est le déluge. Alors, voilà ce que je voulais simplement mettre en évidence pour oublier tous les détails et garder la conclusion. La signification de l'histoire du monde, c'est construire le Beit HaMikdash. C'est-à-dire construire un monde où Dieu et l'homme puissent être en présence. Ça a eu lieu une fois. Et voilà. Donc, c'est l'essentiel. C'est pourquoi le Midrash dit, que le jour où Moïse a construit le tabernacle est plus grand que le jour de la création du monde. Vous trouverez ce Midrash. Alors maintenant, ça c'est clair. Ça veut dire que le jour de la création du monde, c'est le point de départ d'un processus qui devait arriver à un aboutissement. Quand l'aboutissement est là, ce jour-là est plus grand que le jour de la création du monde. Est-ce que vous avez bien compris le...
Personne n'a parlé, c'est la coexistence. המצב הנורמלי הוא שאין רבלציון.
לא המצב הנורמלי. זה המצב הטרנזיטיבי, אם אפשר לומר.
זה הביאור של הביאור של סיני? זה
לא. זאת אומרת, הגילוי השם היה צריך להיות בציון, לא בסיני. מכיוון שלא היו מסוגלים להגיע עד ירושלים. אז היו צריכים איזושהי הכנה. סיני, זה היה הכנה לציון.
אז יש פה קושי. אם הרצון של הבורא המטרה היא הקואקסיסטנס, אז למה הזמן הזה, המצב, שזה לא... למה הדלה? למה הבריאה לא...
זה למדנו הרבה פעמים והרבה שנים, כי צריך לזכות בזה, צריך לקנות את הזכות. בוא, לא, זאת חדיפה, אבל זה תוצא צ'פית, כן, רבינו.
Alors maintenant, pourquoi est-ce que Dieu a dit à Moïse
quand
il est monté sur la montagne, qu'il n'aura rien à dire, ça va être assez définitif?
Non, il faut lire avec les tarmis. Je vous donne un autre. Vous avez compris ce qui se passe là? Moïse demande que Dieu se révèle à tous, face à face. Alors Dieu lui répond, je ne peux pas encore, vous n'êtes pas capable de supporter. Parce que, Kilo Irani Adam Vachai, car l'homme ne peut pas me voir et vivre. Alors, et même si on n'apprend que ça cette nuit, ça vaudra la peine. Essayez de comprendre ce qu'il y a dans ce verset-là. Il faut le lire en hébreu avec l'état ami. Mais c'est d'Afka pour ça que le monde a été créé. Parce que, est-ce que c'est une vie de vivre sans être en présence de Dieu? C'est pas le monde, c'est l'enfer. Si vous comprenez bien de quoi il s'agit. Un monde privé de l'essentiel, un monde où il y a une absence, alors qu'il devrait y avoir le dévoilement d'une présence, c'est pas le monde, c'est l'enfer. Alors c'est Dieu qui se plaint de ça. Parce que vous n'êtes pas encore arrivé à ce stade-là où l'homme peut me voir et vivre. Et c'est ça que je désire. C'est tout le contraire. La preuve, c'est que quand la Torah nous parle des patriarches, qui eux étaient capables, Ça nous dit tranquillement, et Dieu se fit voir à Abraham. Vaera el Abraham. Alors, rencontre ce verset. Vaera el Abraham. Pourquoi? Rashi explique, c'était les patriarches. Cela était capable. Mais c'est ça l'objectif. Mais je vais vous donner un truc. Vous avez compris ce qui s'est passé là?
Hein?
C'est ça que je vous l'avais dit. Non, c'est chez la Acher. Fais bien attention à ça. Si le règne Adam Bachai, gamin, et tu te satisfais de ça. Et au contraire, c'est une perche que Dieu lui tend en lui disant qu'il règne Adam Bachai, haval. Et je voudrais bien que ce soit possible, mais ce n'est pas encore possible. Est-ce que c'est clair?
Parce que vous disiez, quand j'ai lu ça la première fois, j'ai pensé que bon, oui, c'est bien, parce que Dieu lui dit, il ne faut pas que tu me regardes parce que personne ne me reverra, personne ne me verra et puis lui verra.
C'est la question
dans ce sens-là, pourquoi est-ce que Moïse, qui était un livre aussi fort, ne pouvait pas avoir Dieu?
Il est le Moïse d'Israël à ce stade-là. C'est ça. Et Tilo Irani, Ha Adam, Vahal. Adam Ken, Ha Adam Lo. Quand tu apprendras plus l'hébreu, tu vas lire. Ha Adam et Adam. Et je vais vous donner un autre exemple. Mais d'abord, pour terminer là-dessus, faites bien attention à cela. Il faut se garder des fausses pistes. Il faut comprendre la Bible globalement. Par exemple, chaque fois on sort la Torah, on lit un verset qui concerne le Mahamad Bar Sinaï qui dit « Ata hareta la da'at ». Az katub ata hareta la da'at. Pour savoir que c'était... On a été dans une espèce d'abri miraculeux au moment du Sinaï. Ça veut dire on nous a fait une projection, je ne sais pas comment on dit ça, on nous a donné à l'avance une preuve. Sache que ça existe. Okay. Et maintenant, on va faire ton histoire avec cette mémoire-là. Mais il faut arriver. C'est-à-dire, on nous a donné au commencement ce qu'il doit y avoir à la fin, et on nous l'a repris, et maintenant mérite. Vous voyez, c'est vrai? Bon. Mais je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, pour vous montrer comment il faut lire les versets comme ils sont écrits. Et pour ça, il faut les lire en hébreu. L'hébreu des hébreux. Pas l'hébreu traduit d'un dictionnaire fait par un anglais ou un allemand. Il y a à propos du premier homme. Okay. Car tu as été créé de la poussière et tu retourneras à la poussière. Voilà. Qui met Afar le Karta et la Afar Tachou. Et on lit ça tranquillement, en croyant que c'est vraiment ça que la Bible nous donne comme étant notre destinée. À quoi on joue? Un Dieu monstrueux comme ça qui s'amuse à faire des hommes avec de la poussière et puis après qu'il les renvoie à la poussière. Et dans la tête de qui ça peut rentrer une histoire? Vous comprenez ce que je veux dire? Et chaque fois que je fais étudier ces versets-là, je m'insurge que les gens ne s'insurgent pas. Comment tu peux lire un verset pareil et rester tranquille? Car tu as été pris de la poussière et tu retourneras à la poussière. Et c'est ça la destinée de l'homme d'après Dieu. C'est contradictoire avec tout ce que la Bible dit. C'est qu'on ne sait pas lire. Et là encore, il faut lire avec l'accent. C'est que tu as été pris de la poussière pour devenir de la lumière. Et voilà ce qu'il a fait de toi, tu vas retourner à la poussière. Dommage. Il faut ajouter l'accent. Voilà un autre exemple. C'est clair? Si vous avez bien compris, je vous donne un petit dessert, un petit ridouche là-dessus. Mais je voudrais savoir si vous avez compris le pshat. Okay. Ça veut dire que, car, qui me afar ou karta ve afar tachou, car tu as été pris de la poussière et je vais te rendre à la poussière, je ne sais pas si vous vous rendez compte, qu'il ne peut s'agir que d'un dieu monstrueux qui joue à ça. Ce n'est pas le dieu de la vie. Donc il faut mettre l'accent. Voilà ce que tu as fait de toi, et c'est dommage.
Excusez-moi, vous avez compris comment avec l'accent, vous pouvez ajouter cette image de...
Quoi? Non, parce que je vous ai dit, il faut lire la Bible dans sa cohérence totale. Et malheureusement, vous ne savez pas assez d'hébreu, mais je vais essayer de vous expliquer ça en français. Il y a une cohérence du langage biblique dans l'ensemble. Et la ligne de réussite, c'est d'aller de la poussière à phare à la lumière or, avec un œuf. Okay. Après, je vous donnerai un petit échantillon du Chaim de Volodi. Et puis, la ligne de la chute, c'est d'aller de la lumière à la poussière. Et puis nous voyons que Abraham va dans la ligne de la montée. Et il prend le relais de l'humanité qui était dans la ligne de la descente. À un certain moment, il rencontre un homme qui disposait du caveau où était enterré Adam Harishon. Comment s'appelait cet homme? Les textes vous montrent. Comment s'appelait celui qui possédait la caverne de Marpella où Sarah devait être enterrée? Et que Abraham tient absolument à lui acheter ce caveau-là et pas un autre. Et le Midrash dit parce qu'Adam et Chava étaient enterrés là-bas. Il s'appelait Ephron Ben Sarah. Ephron. C'est lui qui faisait la caverne de Marpella. Alors qu'est-ce que c'est Ephron? C'est la poussière au maximum. Ephron, c'est le nom du gardien du cimetière. C'était son nom, il s'appelait Eupon. D'ailleurs, les linguistes, les critiques s'appelaient Eupon. Ils l'apprennent déjà. Et son nom total, ça veut dire Pierre, fils de lumière. Ephron ben Zohar. C'est un terme qui ressemble à Zohar. Et alors, depuis le premier homme jusqu'à Ephron ben Zohar, c'est la chute. Abraham est dans la ligne de la remontée. Il arrivera et prend le vent. Un peu cette période, vous voyez. La nuit va commencer, mais on est encore Mibérodio. C'est-à-dire Mibérodio, tant que c'est encore le jour du jour précédent. Talon Thomas, réponse non, parce que le verset dit Barabouzé. Barabouzé, à cause de cela. Cela c'est quoi pour cet enfant? Barabouzé, à cause de cela, Lora Marti, ça dit Lora Marti, je n'ai dit, je n'ai parlé. Elle a seulement, Béchara, à l'heure, chez Matza ou Maro, ou la Matza et le Maro, Mounahi, les Fanera. Mazemunachim et Fanecha sont posés devant. Vous voyez ? Bon. Attendez, là il y a une différence dans le Rite Ashkenaz. Le Rite Ashkenaz dit Ella, chez Yesh, Beshara, chez Yesh, Matza ou Maro. Il ajoute chez Yesh. À l'heure où il y a, chez Yesh, Matza ou Maro, Munachim et Fanecha. Qui a une texte Ashkenaz ? Oui, on va vérifier. Quel ? Yesh. Il y a. Et là, déjà, chez Yesh, Matzah. Bon, le sens revient au même. Vous voyez ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez acheté des abeilles de Chénard ? C'est pas grave, c'est aussi, mais. Ça serait bien arabe. Okay. Mais c'est ton rite, ça. Tu sais bien. Bon, alors qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je reprends le raisonnement. Okay. Vous me suivez ? Le chéno et derby shawl, celui qui ne s'est pas interrogé, toi prends l'initiative. Puisque le verset dit, et tu expliqueras à ton fils en ce jour-là, etc. Alors, je pourrais croire que l'initiative doit être prise déjà depuis le Rosh Chodesh, depuis le début du mois. Non, le verset a dit, en ce jour-là. Je pourrais croire en ce jour-là, un peu avant, déjà, je le prépare, avant que le jour tombe et que le Seder va arriver. Alors non, parce qu'il y a écrit, bravo, Zé, il faut que je puisse lui désigner quelque chose, bravo, Zé. Vous avez compris déjà la première approximation. Celui qui n'est pas capable de sa propre initiative de poser la question ne pourra comprendre de quoi on lui parle que quand il voit de quoi il s'agit. Et là, il y a une consigne, encore une fois, pédagogique, très importante. La Mishnah est claire. Il ne faut pas perdre son temps lorsqu'on a affaire à ce cas-là, de celui qui par lui-même ne perçoit pas qu'il se passe quelque chose, de lui parler de choses qu'il ne voit pas. Il ne verra pas. Okay. Il faut attendre que les signes soient. Okay. Qu'on puisse appuyer l'explication sur des choses concrètes. Le tard, il suffit de lui raconter l'histoire, de comprendre l'histoire. Okay. On lui raconte l'histoire, alors il identifie. Tandis que le chêne regardé à Richaud, on perd son temps tant que les signes ne sont pas. Bon. Et ça, c'est la première approximation. C'est clair jusque-là ? Je reviens. D'où vient cette hypothèse ? Peut-être depuis le Rosh Chodesh, peut-être numéro 2. Alors, je vais essayer d'élargir l'explication. Du point de vue du purement pshat, il y a une halakha très générale, c'est que
le mois où une fête vient, on commence à étudier ce qui concerne cette fête depuis le Rosh Hashanah. Par exemple, depuis le début du mois de Hadar, on s'occupe de Pourim. Depuis le début du mois de Nissan, on s'occupe de Pessah, etc. Vous comprenez? Ça, c'est une halakha. Alors, tu pourrais croire que pour ce cas d'enfant qui ne s'est pas interrogé, il entre dans le cas général, dès le début de Rosh Hashanah, on le prépare. Alors, là, Mishnah répond, ne te fais pas d'illusion, tu perds ton temps, il ne comprendra pas. Tu pourrais croire aussi, bon, quelques temps avant, il voit déjà les préparatifs, toute la maison est en l'air, etc. Non, il verra rien, ok? Il faut attendre vraiment que les signes soient. J'ai compris le principe. Alors, j'ai un peu changé de registre. Qu'est-ce que c'est le Rosh Hashanah? Qu'est-ce qui se passe au Rosh Hashanah? Il se passe... est-ce que nous avons étudié déjà cela? Comment on dit? Quelle est la racine ou bien le mot Chodesh?
Le Chodesh.
Un renouvellement. Okay. Quelque chose de nouveau arrive, mais nouveau renouvelé. Est-ce qu'on a étudié la différence entre Shinui et Chodesh? Bon. Il faut vous brancher sur ce thème-là. Okay. Tu pourrais croire que dès que le Chidouch arrive, il pourra comprendre ce que tu vas lui expliquer. Alors, la réponse est très importante. Ouais, il y a toute une catégorie de gens qui sont ici représentés par ce quatrième enfant qui n'a pas en lui la problématique de la question, qui ne sait même pas qu'il y a une question qui se pose dans la vie. Okay. Alors, tu pourrais croire que dès que les premiers signes apparaissent, tu vas lui expliquer. Fais attention. C'est à propos de ça que s'est passé ce qui s'est passé en Égypte. Okay. Vous suivez? J'ai déjà changé de registre. Je parle au niveau historique. Et vous avez vu à quel point la majorité des gens sont dans ce cas. Les choses arrivent, commencent à arriver, et puis la Mishnah nous prévient. Il faudra attendre que ça arrive dans ma vie. Vous voyez le problème? Okay. Alors, tu pourrais croire donc que c'est depuis le début du Rosh Chodesh? Non. Le Chidouche? Le Chodesh, non, il faudra attendre le jour même. Le jour même, un peu avant, même un peu avant. Alors quoi, quand il sera pris au piège? Vous voyez le problème? C'est tout ce lien qu'il y a. Alors, je vais un peu approfondir l'analyse. Et là, Béchara, chez Matza, ou Maro, on arrive à l'analyse. Tu ne pourras lui expliquer que quand la Matza et le Maro seront devant. Bien. Alors, on va enchaîner sur lequel.
Je pense aux enterrements en particulier. Vraiment, le minage, vous savez.
C'est minagim. Tout c'était à travers une mentalité goy, de la langue traduite dans laquelle on pense. Et à quel point, j'essaie de vous expliquer ça un petit peu. À quel point on s'est habitué à des clichés du pastiche du langage de la Bible, par exemple en français, on croit que c'est ça que la Bible dit, okay. Et que l'homme a été créé de la poussière. On met dans ce mot de poussière un sens qu'il n'a pas en hébreu. Okay. On voit la poussière du balai, vous voyez tout de suite la poussière. Okay. Alors que, d'abord, pour répondre tout de suite à ton problème, c'est le corps qui retourne à la terre, c'est pas moi. Moi, c'est pas mon corps. Essayez de comprendre ça simplement. Alors, il n'y a que les gens qui se prennent pour leur corps, pour qui leur destinée, c'est la poussière, la poussière. Alors, qu'est-ce que c'est cette magie? Subitement, il y a de la poussière qui s'anime, ça fait un homme. Oui, c'est de la magie, ça. La poussière qui s'anime, qui fait un homme. Et puis, subitement, remagie inversée, cet homme, cette apparence d'homme disparaît, ça redevient de la poussière. Mais moi, l'homme, c'est pas mon corps. J'ai un corps. Je suis pas mon corps. Et quand je dis je, c'est vous. Hein.
Dans la pensée, tu retournes à la poussière et ton âme, c'est...
Je sais pas comment on dit ça dans la pensée chrétienne, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le corps est fait de ce qu'on... Je vais expliquer le mot poussière encore. Enfin, le corps est fait de ce qu'on appelle la poussière. Mais il ne s'agit pas de la poussière du balai, il s'agit de ce qui fait que la terre est vivante. Puisqu'en fin de compte, notre corps se nourrit de la terre, puisqu'il se nourrit des fruits de la terre. Okay. Il se nourrit de terre modifiée. C'est clair? Alors, notre corps est fait de terre modifiée, mais ce n'est pas de la poussière. À la rigueur, je vous employais des expressions un peu littéraires, le limon.
fertile. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, en latin, vous avez la même équivalence qu'en hébreu. En latin, la terre dont il s'agit, afar, c'est l'humus. Vous voyez, homo, hominus. Humus, c'est la même racine. Pas les minus, le humus. Et. Et en hébreu, afar, ça veut dire ce qui porte le fruit. Vous voyez, dans afar, perech de péri. Okay. Ce qui est capable de donner un fruit. Alors on traduit ça poussière. À l'origine, en français, poussière, ça pouvait peut-être vouloir dire cela, le limon fertile. Mais maintenant, ça prend un tout autre sens. Alors on véhicule un sens qui n'est pas le sens originel. Est-ce que c'est clair? Mais surtout, ce que je vous mets. Clara? Ça veut dire, attends. Et faire avec kaf. Vous comprenez ce que je veux dire? Comment on peut, de façon impassible, lire un verset pareil et croire que c'est ça qu'il fallait lire? Car tu es pris de la poussière et tu retourneras à la poussière. Il y a quoi rendre désespéré n'importe qui. Alors que la Bible, c'est un message d'espérance. Vous avez compris, le rage de ces est gigantesque. Enfin, voilà ce que font les traductions de la Bible. Enfin, je vais donner un petit ridouche, si vous avez bien compris le pshat. Okay. Voilà, je vais vous mettre le verset au tableau. Qui me rafa le karta et rafa rajout. Alors le pshat, c'est donc car de la poussière tu as été pris, enfin poussière entre 14 guillemets, du rafar tu as été pris, et le rafar et au rafar tachouf tu vas revenir. Tu reviendras, et je vous ai dit, il faut lire avec l'accent, et dommage, c'est ça que tu as fait de toi. Ça veut dire un ribouille de bien compris. On a déjà pris ce mot-là, la choule, en hébreu ça veut dire revenir, et ça veut dire aussi se repentir. Alors essayez de suivre la lecture que je vais vous faire avec une autre accentuation. Qui met rafa ou karta, car tu as été pris de la poussière. Et puis voilà, à cause de la faute que tu as faite, et le rafard vers la poussière, tu vas, alors t'as tout, reprends-toi. Vers le rafard, t'as tout. Et vous comprenez la différence. C'est-à-dire, fais tout, là. Sinon, le rafard, t'as tout.
C'est une menace.
Hein? Non, c'est au contraire une exhortation. Vers le rafard. Si tu te laisses aller, tu vas retourner à la poussière, mais ça je veux pas, je t'ai sorti de la poussière. Alors ça, je vous préviens.
C'est une direction.
Et quelle?
Tachou.
Non, vers la rafale, et je laisse en suspens, point de suspension, vers la rafale. Tu vas retourner à la poussière. Alors ça, je vous préviens. Et il faut savoir que Adam Arishon a compris le chidouche et il s'est repenti. Il y a un midrash très important qui dit que chaque fois qu'un homme ou une femme va mourir, le premier homme se révèle à lui ou à elle et lui dit: tu sais, mon fils ou ma fille, c'est pas pour ma faute que tu vas mourir, c'est pour la tienne, que tout soit clair. Parce que je ne sais pas si vous avez une fois mesuré l'ingratitude de l'humanité entière à cause du mythe du péché originel sur le premier homme. Là, on ne sait pas ce qu'on lui doit à ce premier homme et tout le monde l'a chargé de toutes les abominations du monde. Mais c'est la première créature qui a eu le courage d'être un homme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte.
Hein?
Il y a une Mishnah qui répond à ta question. C'est une Mishnah qui dit « Repends-toi un jour avant ta mort. » Et comme tu ne sais pas quand tu vas mourir, Dieu te réserve, repends-toi tous les jours. Bon, alors on revient au... Voilà. Alors j'espère que vous avez compris cette introduction générale, c'est-à-dire que le sens, l'objectif de l'histoire du monde, c'est de construire le Beth Amikdash. Quel est le sens, disons, métaphysique qu'il y a derrière? C'est le projet même de la création du monde, d'aménager, et la tâche de l'homme, d'aménager un monde tel que la présence de Dieu puisse se révéler. C'est ce qui nous attend pour la fin du septième jour. Ça y est, c'est clair?
C'est votre question sur les rites, donc on n'a pas
Très bien, très bien. Tu reprends la question que Mathieu avait posée tout à l'heure. C'est-à-dire le Beth Amikdash, c'est au fond de construire le Gan Eden l'ayant mérité. C'est-à-dire le monde entier est destiné à devenir un Beth Amikdash. En attendant, Israël, c'est la manière d'être homme capable de construire le prototype. Voilà, est-ce que c'est bien compris? Vous voyez comment ces deux lignes de lecture sur notre question, le livre de Shemot, se télescopent.